Sami Cohen, bonjour.
Bonjour.
Dans l'introduction d'Israël, une démocratie fragile, vous écrivez qu'Israël est une démocratie, mais qu'elle n'appartient pas à la famille des démocraties libérales du monde occidental. Pourquoi ? Qu'est-ce qui la distingue donc de ces autres démocraties ?
Les démocraties libérales sont construites sur plusieurs principes, non seulement sur le principe des élections libres, concurrentielles, mais également sur, je dirais, des normes qui sont souvent des normes non écrites, comme la protection des minorités, la protection des droits de l'homme, le principe d'égalité entre tous les citoyens, le principe des contre-pouvoirs. Alors, ce qu'on constate dans le cadre d'Israël, c'est que au niveau de l'égalité, par exemple, tous les citoyens ne sont pas égaux. La minorité arabe n'a pas les droits politiques nationaux égaux à ceux de la majorité juive.
Effectivement de la double identité juive et démocratique.
Oui, en Israël, la minorité arabe qui vit en Israël a les droits de se présenter au Parlement, de contester, de faire grève. Ils ont tous les droits individuels. Cela étant, en ce qui concerne les droits sur l'État d'Israël, il n'y a que les Juifs qui sont les propriétaires de l'État d'Israël. Ce que dit clairement la loi fondamentale de juillet 2018, Israël est l'État-nation du peuple juif. Lui seul a le droit de s'y autodéterminer. La minorité arabe n'a pas ce droit-là. Autre point, c'est le problème des contre-pouvoirs. Dans toutes les démocraties libérales, ces régimes connaissent plusieurs contre-pouvoir. Vous avez par exemple dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, deux chambres. L'une peut contrebalancer l'autre. Vous avez pratiquement dans tous les pays européens une adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme qui intervient en cas de violation des droits de l'homme dans ces pays-là. Bon, en Israël, il n'y a qu'un seul contre-pouvoir, c'est la Cour suprême. Et même là, elle est régulièrement contestée par la droite nationaliste.
Il y a aussi un autre point, c'est que Israël, depuis 1967, établit un contrôle sur la Cisjordanie, donc sur les millions de Palestiniens qui sont présents en Cisjordanie.
Oui, ça c'est un des points supplémentaires, bien entendu. Les démocraties qui étaient des puissances coloniales se sont tous défaites de leurs empires coloniaux depuis 1945. Israël s'est constitué à partir de 1967 un mini-empire en Cisjordanie, sur le plateau du Golan, à contre-courant de ce qu'ont fait les démocraties libérales. Israël est la seule démocratie, pratiquement, qui domine un autre peuple sans perspective de solution. C'est là que c'est important. C'est pas seulement la domination et l'occupation, mais c'est la perspective de solution de ce problème-là dont on ne voit pas très bien comment ça pourrait déboucher sur quelque chose d'assez positif.
Vous parlez de l'empire accidentel de 1967. Et si dans votre livre, vous identifiez 7 moments clés dans l'histoire qui ont eu un impact positif ou négatif sur la démocratie israélienne, cette guerre de 67 et l'occupation donc de la Cisjordanie, de Gaza à l'époque, c'est un moment charnière, c'est un moment fondamental dans la dérive de la démocratie israélienne.
Oui, c'est un moment très important parce qu'à partir de là, doucement, progressivement, ça ne s'est pas fait de manière intentionnelle, se met en place un processus de construction des colonies pour rendre irréversible la présence d'Israël dans ces territoires. Avec un point très négatif, c'est la montée en puissance des sionistes religieux fondamentalistes qui vont se constituer en groupes menaçant pour la démocratie, ça il faut le dire clairement. C'est dans le sionisme religieux qu'ont émergé des éléments violents qui vont s'attaquer aux Palestiniens, qui vont conduire à l'assassinat de Rabin. L'assassin de Rabin est un sioniste religieux qui a été formé dans une yeshiva en Cisjordanie, qui a fait ses armes dans une unité israélienne. Donc, on a une transformation d'Israël à partir de juin 67, une transformation radicale avec une situation où aujourd'hui il existe à peu près 600 000 colons en Cisjordanie et dans Jérusalem-Est qui ont transformé le rapport des forces entre colombes et faucons en Israël. À une certaine époque, dans les années 80-90, les colombes étaient majoritaires.
Il y avait de grandes manifestations en Israël.
Voilà, il y avait des grandes manifestations. L'opinion publique y croyait. Elle avait soutenu Rabin, quand Rabin avait décidé de sceller un pacte avec l'autorité palestinienne. Voilà, tout ça va basculer et changer donc, par étapes. Ça ne se fait pas de manière brutale. Il y a la colonisation, la montée d'un fondamentalisme religieux, l'assassinat de Rabin qui est un tournant très important. Très important parce que à partir de là, on ne voit plus très bien quel dirigeant politique est susceptible de reprendre le flambeau et de mener le processus de paix à son terme.
Et donc justement, il va y avoir un double mouvement, ce fondamentalisme religieux et aussi la droitisation de la société israélienne.
Oui, les deux sont en partie liés, en partie détachés, parce que la droitisation de la société israélienne, elle vient aussi de plusieurs facteurs. D'abord, pour des raisons économiques et sociales. Le Parti travailliste lui-même va conduire une politique néolibérale parce que c'était essentiel qu'Israël sorte du marasme économique et de la superinflation qu'elle connaissait. Mais il y a eu aussi les facteurs liés au conflit israélo-palestinien, au terrorisme palestinien. À partir des années 90, avec les tentatives du Hamas, du djihad islamique et ensuite du Fatah, de faire dérailler le processus de paix, avec les attentats de la deuxième intifada, les attentats suicides, là, on sent bien que des Israéliens qui étaient engagés en faveur de la paix n'y croient plus. Et réclament une chose, avant la paix, elles réclament la sécurité. Et la sécurité, elle est ramenée par qui? Par des gouvernements de droite. Le gouvernement de Ariel Sharon, qui arrive au pouvoir en 2001. Et à partir de là, la gauche ne revient plus au pouvoir.
L'autre chapitre que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, c'était de voir comment, au sein de l'armée israélienne, les religieux ont pris une place grandissante dans cette institution qui, au départ, hein, vous le dites, hein, David Ben-Gourion, le fondateur de l'État, voulait qu'elle soit apolitique à religieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. Ça s'est produit de manière progressive. En fait, c'est venu pratiquement à la demande même des autorités militaires israéliennes. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, qui étaient des jeunes issus des kibbutzim, des gens de gauche, qui tenaient les commandes de l'armée israélienne, se sont progressivement éloignés des postes de commandement, des unités combattantes, pour se diriger vers des unités plus intéressante pour leur avenir, c'est-à-dire des unités qu'on appelle des unités technologiques. Et là, il y a eu un appel d'air. L'armée avait besoin de nouveaux effectifs. Et ce sont les sionistes religieux qui se sont portés volontaires dans ces unités combattantes et qui ont conquis un nombre très important de postes de commandement dans les principales unités combattantes et qui ont transformé l'armée israélienne. L'armée israélienne était une armée totalement laïque. Aujourd'hui, dans bon nombre d'unités, on ne trouve que des kippas tricotées, celles des sionistes religieux, et ça forme une armée qui pose un problème, parce que ces jeunes conscrits, qui sont des sionistes religieux, ils relèvent d'une double allégeance, à la fois respect de l'autorité du commandement militaire, mais aussi respect de l'autorité de leurs rabbins. C'est-à-dire qu'il y a des rabbins dans certaines unités qui leur disent comment se comporter dans la vie quotidienne. Et là, c'est important parce que, contrairement à toutes les démocraties qui veulent qu'un soldat obéit à son commandement, qui obéit lui-même au pouvoir politique, cette chaîne de commandement, elle s'est brisée.
Ils ont maintenant un véritable poids, ils peuvent faire pression, ces rabbins, au sein de l'armée israélienne.
Oui, et ils font pression à plusieurs niveaux. Par exemple, ils ne souhaitent pas faire leur service militaire dans des unités où il y aurait des femmes avec eux. Parce que le rabbin interdit la mixité. À certains moments, au moment du désengagement de la bande de Gaza, décidé par Ariel Sharon en 2005, certains de ces soldats sionistes religieux ont refusé de participer aux forces qui allaient désengager les colons de la bande de Gaza. Donc, vous avez, si vous voulez, un groupe de pression quand même. Ce n'est pas déterminant parce que le plus haut commandement n'est pas sioniste religieux. Il reste laïque dans sa majorité, mais on est dans un processus qui pourrait conduire à terme dans les 10 ou 15 ans à venir à ce qu'il y ait dans le haut commandement un certain nombre de généraux principaux qui soient des sionistes religieux et qui fasse pression pour que le gouvernement aille dans le sens qui leur est favorable. Il faut dire que ils n'ont pas grand besoin de faire pression aujourd'hui, puisque un des sionistes religieux est au gouvernement, c'est Naftali Bennett, qui est lui-même sioniste religieux, qui s'est déclaré totalement hostile à toute création d'un État palestinien. Donc, un des leurs est déjà au gouvernement, ce qui est une victoire absolument incroyable quand on pense à leur situation, c'est-à-dire dans les années 50-60, où ils étaient ultra minoritaires.
Alors là, on parle du gouvernement Naftali Bennett. Ce gouvernement a mis fin à une décennie de pouvoir. Le premier ministre à l'époque, c'est donc Benjamin Netanyahou. Et Benjamin Netanyahou a joué lui aussi pendant cette décennie un rôle dans l'attaque du socle démocratique d'Israël.
Effectivement, à partir de 2009, le retour de Netanyahou au pouvoir, allié à une extrême droite, c'est-à-dire allié au parti politique de Naftali Bennett, de Lieberman, qui vont l'encourager à aller de plus en plus à droite, on voit quand même une tentative de réduire considérablement le poids des contre-pouvoirs. Et donc, ce sont des attaques
contre
des ONG
suprême,
de droits de l'homme,
ONG.
Des ONG qui sont droits de l'homme, qui critiquent l'occupation et la colonisation, des critiques contre les universitaires, des critiques contre la minorité arabe, avec toute une série de lois visant à assurer la primauté des juifs, la suprématie, je dirais, de la majorité juive sur la minorité arabe. Et ça conduit à la loi fondamentale de 2018 de l'État-nation des peuples juifs, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a bien sûr les attaques contre la Cour suprême. Il y a des tentatives en 2017-2018 pour faire en sorte que la Cour suprême, en cas de différend entre les juges et le Parlement sur des lois qui ne seraient pas conformes aux lois fondamentales, de permettre aux parlementaires d'avoir le dernier mot. Or, c'est quelque chose qui est pratiquement inconcevable dans une démocratie parlementaire. Dans une démocratie parlementaire, celui qui a le dernier mot, ce sont les juges, c'est la Cour suprême, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France, c'est partout pareil.
Et vous avez des propos pessimistes au tout début de votre livre, parce que vous dites « les démocraties sont réversibles, elles peuvent périr ». Est-ce que c'est un risque que court Israël ?
Écoutez, elle était à deux doigts dans les années 2017, 18, 19, de basculer, non pas dans un régime autoritaire, mais dans un régime qu'on peut appeler le régime de la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que, au fond, une démocratie libérale se fonde sur deux principes. Un, le principe de la majorité qui est représentée au Parlement, qui édicte les lois, mais en même temps, le respect des minorités, c'est fondamental. À partir du moment où il n'y a pas de Cour suprême qui est capable de protéger les minorités, de protéger les libertés fondamentales des citoyens, on bascule vers un régime de la tyrannie de la majorité. C'est là le danger. Ce n'est pas le basculement vers un régime autoritaire pur et simple. C'est un régime où la droite pourra dire « mais vous voyez, nous sommes dans une démocratie, c'est nous qui, au Parlement, faisons les lois, et donc c'est tout à fait normal ». Non, c'est pas tout à fait normal. Si les droits des minorités, si les libertés fondamentales de tous les citoyens ne sont pas garanties, nous ne sommes plus dans une démocratie libérale. Nous sommes dans une démocratie défectueuse.
Merci Sami Cohen.
Merci.